Ce soir, nous recevons M. Philippe Biane, qui est ancien élève de l'ENS, directeur de recherche au CNRS, maître de conférence à l'École Polytechnique et spécialiste de la théorie des probabilités et du mouvement brownien. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole.
Bien, donc aujourd'hui mon propos ça va être la théorie des probabilités et le mouvement brownien. Alors la théorie des probabilités, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du hasard. Alors le hasard, par définition, c'est ce qui est imprévisible, hein, ce dont on ne peut pas dire ce qui va se passer. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait le hasard, il suit des lois. Hein. Donc la théorie des probabilités, c'est l'étude de ces lois. Ces lois sont précises, hein. Elles permettent de faire des prédictions, même dans des situations où on s'attendrait à ce que ça soit imprévisible. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et je vais plus particulièrement détailler un phénomène aléatoire, c'est-à-dire un phénomène régi par le hasard, très particulier, qui s'appelle le mouvement brownien, et qui a une importance extrêmement grande, hein, dans la théorie des probabilités, et bon, dans beaucoup de phénomènes physiques en général, comme on le verra. Alors je vais commencer par, pour décrire un peu la théorie des probabilités, par un exemple simple que tout le monde connaît. Hein. Donc la situation est la suivante, on est dans un pays où il y a deux candidats à une élection. Hein. Donc chacun des candidats réunit sur son nom à peu près la moitié des suffrages, et le problème c'est d'arriver à prédire l'élection. Hein. Donc on fait un sondage. Hein? Donc, alors mes candidats, je les appellerai, disons, C et J pour fixer les idées. Voilà. Et voilà donc ce qu'on obtient. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom là. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est net.
Oui. Focus là-dessus.
Oui.
Bah, je m'en fiche.
C'est un petit peu plus net. Donc, qu'est-ce que j'ai représenté sur ce graphique? Eh bien, on a interrogé 1000 personnes, et à chaque fois, au bout de la quatrième personne qu'on a interrogée, hein, on a pris la moyenne de tous les résultats obtenus, hein, et on a fait donc le pourcentage des résultats pour chacun des deux candidats. Alors, vous voyez, au début, hein, quand on a interrogé seulement quelques personnes, les résultats oscillent beaucoup, hein, et puis ça finit par devenir à peu près constant, vous voyez. Alors, la moitié, c'est le trait horizontal qui est là, hein, donc ça représente 50% des voix. Alors là, dans ce sondage-là, donc c'est le premier candidat qui a obtenu 524 réponses en sa faveur, et l'autre, le restant. Hein. Alors si on fait une deuxième expérience, hein, on va obtenir par exemple ce résultat-là, et on observe le même type de courbe. Hein. Au début, des oscillations très grandes, quand on calcule le pourcentage de voix sur quelques réponses seulement, et puis après, ça finit par se stabiliser. Là, on obtient 513 pour le second et 487 pour le premier. Vous voyez, donc chacun d'eux a gagné une fois là, dans ces petits sondages. Bon, évidemment, pour faire ces courbes, vous imaginez bien que je ne suis pas allé interroger 1000 personnes dans la rue. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un ordinateur, je lui ai demandé de tirer au hasard à chaque fois un des candidats 1000 fois de suite, et puis je lui ai fait tracer le graphe de ce qu'on obtient. Hein. Alors, on peut recommencer cette expérience plein de fois. Là, voilà, je l'ai fait un certain nombre de fois, une dizaine en tout. Donc, vous voyez tous les résultats que j'ai obtenus. Hein. Bon, il y en a d'autres encore que je pourrais vous montrer, mais à chaque fois, donc, on observe toujours la même situation. Au début, des oscillations assez importantes. Hein, au début, bon, on ne sait pas très bien qui va gagner, puis au bout d'un certain temps, en fait, bon, à la fin, comme ils ont chacun, j'ai supposé qu'ils avaient chacun à peu près le même nombre de voix, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui va vraiment gagner à coup sûr, hein, mais à chaque fois, vous voyez, ça va, on voit que ça se rapproche de moitié-moitié, hein, seulement sur mille réponses. Hein. Alors ça, bon, c'est un fait avec lequel j'imagine tout le monde est familier, hein, des sondages, on en voit tous les jours dans les journaux quasiment. On sait bien que si on interroge 1000 personnes, en fait, ça suffit à avoir une très bonne idée de ce que vont faire les gens lors de la vraie élection, hein, la vraie élection qui va rassembler évidemment des millions de personnes. Hein. Alors le résultat mathématique qui est derrière ça, hein, parce qu'il y a un résultat mathématique derrière ça, ça s'appelle la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, ça concerne une expérience qu'on répète un grand nombre de fois, comme son nom l'indique. Cette expérience, elle va nous donner un certain résultat, un résultat numérique. Par exemple, dans le cas du sondage, si vous votez pour le premier candidat, on comptera 1 et puis 0 pour le deuxième candidat. Et à la fin, on obtiendra, en faisant la moyenne la proportion de personnes qui ont choisi le premier candidat. Hein. Alors la loi des grands nombres, donc, elle nous enseigne que quand on répète cette expérience un grand nombre de fois et qu'on prend la moyenne des résultats obtenus, eh bien, on obtient un certain nombre, hein, qui s'appelle l'espérance, hein, qui est en fait obtenu en regardant tous les résultats possibles, en prenant leur somme et en pondérant chaque résultat avec la probabilité qu'il avait d'apparaître. Par exemple, dans le cas que j'avais donné, on obtenait 1 avec probabilité 1,5, 0 avec probabilité 1,5. En faisant la somme pondérée, comme j'ai indiqué, on obtenait 1,5. Autrement dit, la proportion de personnes qui va répondre pour le premier candidat va être à peu près 1,5 quand n va être très grand. Hein. Donc ici, ça va être n, j'avais pris 1,000 dans ce cas-là. Et donc la loi des grands nombres nous enseigne, hein, que quelle que soit la façon dont on fasse ces expériences, hein, si on les fait indépendamment les unes des autres, c'est-à-dire qu'on ne se concerte pas pour aller choisir pour choisir plusieurs fois la même personne, par exemple, ou pour aller toutes les choisir dans un coin particulier, si on vraiment les choisit au hasard dans la population et qu'on répète cette expérience de façon indépendante, hein, alors on obtiendra à peu près toujours la même réponse, ce nombre-là. Alors je dis à peu près parce qu'évidemment, on n'obtient pas toujours la même réponse. Hein. Vous avez vu dans les résultats que j'avais donnés, on ne trouvait jamais vraiment exactement 500 personnes qui allaient répondre pour le premier candidat et 500 pour le second. On trouvait une petite fluctuation, hein, une petite variation. Alors, comprendre cette variation, c'est évidemment très important. Hein. Quand vous faites un sondage, vous voulez savoir, hein, parce que quand vous faites le sondage, vous ne savez pas a priori qu'il va y avoir la moitié pour l'un, moitié pour l'autre. En fait, vous voudriez savoir exactement combien vous votez pour l'un, combien vous votez pour l'autre. Donc vous voulez savoir, si le résultat vous dit qu'il y a 52%, 42%, 48%, vous voulez savoir si votre résultat est vraiment précis. Alors, l'erreur que l'on fait quand on fait cette approximation, ici c'est une approximation, hein, donc c'est un résultat, je dis que c'est un résultat qui est valable pour n grand, en fait ça veut dire que plus n devient grand, plus le résultat est précis, mais évidemment, pour un n fixé, le résultat ne va pas être exact. Et la différence, en fait, c'est la deuxième loi que je voudrais donc énoncer, hein, ce qu'on appelle en termes techniques le théorème de la limite centrale. La deuxième loi nous dit quelle est à peu près la taille de la différence. Hein. La taille de la différence, bon, c'est donné par cette formule un peu cryptique. La taille de la différence, vous voyez, la différence, je dis que c'est à peu près zéro, puisque ce terme-là, c'est à peu près égal à ce terme-là. Hein. Donc si je la multiplie par un grand nombre, ici je vais la multiplier par racine de n, je vais obtenir une certaine quantité. Et cette quantité, en fait, on peut non pas prévoir sa valeur, si on savait prévoir sa valeur, forcément on pourrait prévoir la valeur de e de x, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va avoir une certaine probabilité de prendre une certaine valeur, hein, et ces probabilités vont se répartir suivant une certaine loi qu'on appelle la loi gaussienne. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chose suivante. Vous voyez, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc, l'exemple du sondage. Supposez que je fasse mon sondage non pas une fois, auquel cas j'obtiens, disons, 52%, 48%, mais je vais le faire 2000 fois. Hein. Je vais le faire 2000 fois. Et puis, donc, alors là, ce que je représente, c'est la différence entre les pourcentages. Hein. Donc, 0 pour 0, ce qui correspond à une égalité entre les résultats des deux candidats, hein, dans le sondage, hein, c'est ça. Donc 1, c'est une différence de 1%, moins 1, une différence suivant que j'ai choisi prendre le premier en premier ou le second en premier. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser l'ensemble de tous les résultats possibles en petits intervalles, et dans chaque intervalle, je vais compter combien de fois mon sondage me donne le résultat. Eh bien, le théorème de la limite centrale me dit que, quand je vais faire un grand nombre encore de telles expériences, hein, et donc ici il y en a 2000 en tout, et donc j'ai fait ce qu'on appelle un histogramme, si vous avez probablement déjà vu ça, hein, de ce genre de courbe, et bien cet histogramme, il va se rapprocher d'une certaine courbe, qu'on appelle la courbe de Gauss, hein, qui a une courbe en cloche tout à fait caractéristique, hein, et donc on sait que, qu'est-ce qu'on en déduit? On a déduit que, vous voyez, cette courbe, elle est extrêmement... Bon, elle ne s'annule pas vraiment au bord, là, mais elle est très très proche de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura quasiment aucun résultat de sondage qui va vous donner un résultat, un écart supérieur à 4, par exemple. Bon, ici, les chiffres sont un peu fantaisistes, ce n'est pas vraiment C'est pour vous donner un exemple. Bon, ça ne s'applique pas forcément au sondage l'ordre de grandeur et pas vraiment celui du sondage que j'avais décrit. Mais disons que la forme de la courbe, elle, elle est universelle, c'est toujours la même. Si on fait cette expérience de répéter le sondage un grand nombre de fois, on va observer, quand on fait les histogrammes, cette courbe caractéristique. C'est la même courbe qu'on obtient quand on fait une mesure physique quelconque. Vous mesurez une longueur. Quand vous mesurez une longueur, eh bien, vous savez que vous n'obtenez jamais le résultat exact. Si vous répétez plusieurs fois la mesure, vous allez trouver différents résultats. Si vous placez ces résultats sur un histogramme de cette façon-là, vous allez voir qu'ils vont se placer suivant une courbe qui a cette forme qu'on appelle gaussienne, encore une fois. En fait, la forme de la courbe, elle est universelle, à condition de bien choisir les échelles. Si vous changez un peu les échelles, vous pouvez obtenir une courbe comme ceci. Elle dépend d'un paramètre qu'on appelle la variance, je ne vais pas insister là-dessus. Vous voyez, cette courbe peut être plus ou moins rapprochée par rapport à son centre, ou bien plus ou moins écartée. Ça veut dire que les valeurs sont plus ou moins rapprochées ou plus ou moins dispersées par rapport à la valeur, disons, exacte de la mesure qu'on veut faire. Alors ces deux résultats, ce que j'ai appelé la loi des grands nombres et le théorème de la limite centrale, donc c'est des résultats vraiment fondamentaux en probabilité, ils sont connus depuis très très longtemps, essentiellement depuis le XVIIIe siècle. Les gens avaient compris ça, en tout cas, même s'ils n'avaient pas encore le formalisme mathématique adéquat pour faire une théorie mathématique à partir de ça. En fait, ils avaient essentiellement tous les éléments pour comprendre ce que signifiaient ces résultats que j'ai essayé de vous présenter brièvement. Alors évidemment, depuis, la théorie des probabilités a fait des progrès et on s'est intéressé à d'autres résultats, à des phénomènes dans lesquels l'aléatoire est plus... on s'intéresse plus seulement à une mesure, disons, à un sondage, à une expérience, mais à une suite d'expériences qui se répètent au cours du temps et qui est, gouvernée par des phénomènes aléatoires, ce qu'on appelle des processus stochastiques, en langage mathématique. Et alors, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un exemple de ce qu'on appelle ces processus stochastiques, et un exemple qui a une place tout à fait centrale dans la théorie moderne des probabilités. Donc cet exemple, c'est le mouvement brownien. Alors pour expliquer ce que c'est que le mouvement brownien, je vais peut-être vous dire que la loi des grands nombres, ça ne sert pas seulement à faire des sondages ou à faire des mesures. La loi des grands nombres, on pourrait l'appliquer aussi au jeu de hasard, donc au jeu de pile ou face, ou à la roulette, ou à ce que vous voulez. Mais la loi des grands nombres, ça sert à expliquer énormément de phénomènes physiques, des phénomènes qui font intervenir encore un grand nombre d'éléments. Alors je vais prendre, pour introduire le mouvement brownien, je vais prendre un exemple extrêmement concret. Supposez que vous rentrez dans votre baignoire. Alors vous savez tous, depuis Archimède, que même avant, on s'était aperçu, bien avant qu'on flottait évidemment, mais on n'avait pas encore vraiment compris bien les choses avant Archimède, disons. Quand vous rentrez dans votre baignoire, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'eau dans laquelle vous rentrez, elle est formée, on le sait maintenant, de molécules. Donc, ces molécules, elles sont agitées d'un mouvement continuel. Elles vont en ligne droite. De temps en temps, elles rencontrent une autre molécule, alors ça leur fait changer de chemin. Mais enfin, essentiellement, si on y regardait de près, ça serait vraiment un chaos absolument indescriptible. Alors quand on rentre dans la baignoire, notre corps il est soumis au bombardement de ces molécules qui se baladent à une vitesse très grande. En fait, le bombardement de ces molécules, donc ça exerce une pression sur le corps, et il se trouve que comme les molécules sont attirées vers le bas, la pression est légèrement supérieure en dessous de nous par rapport à au-dessus. Donc ce qui fait que nous recevons les chocs, nous font remonter vers le haut. Et comme la densité du corps est à peu près 1, donc notre poids est à peu près compensé par ces chocs qui nous font monter vers le haut. Et en fait, derrière ça, il y a la loi des grands nombres. Pourquoi ? Parce que ces chocs, évidemment, ils ne se concertent pas entre eux, les molécules elles poursuivent leur chemin indépendamment les unes des autres, et leur nombre est extrêmement grand, donc on pourrait a priori penser que comme il y a un grand nombre de molécules qui ne se concertent absolument pas, le résultat va être effroyable, qu'on va être repoussé dans tous les sens. Eh bien pas du tout, parce que derrière il y a la loi des grands nombres qui s'applique dans ce cas-là. Donc Et en fait, ces molécules nous semblent coopérer hein, pour nous donner une pression, c'est-à-dire une poussée vers le haut, qui semble à peu près constante. Hein. En fait, cette constance, c'est rien d'autre qu'un effet de la loi des grands nombres, hein, ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Alors donc ça s'applique à nous, ça s'applique à un bateau qui flotte sur la mer, ça s'applique à un poisson qui navigue dans l'eau. Mais supposons maintenant que nous soyons beaucoup plus petits. Hein, supposons que nos tailles se réduisent, et nous arrivons finalement à faire une taille de l'ordre de 1 micron. Alors là, les choses se compliquent. Hein. Alors donc je vais essayer d'expliquer ça. Donc là, les choses se compliquent. Alors j'ai représenté ce qui se passe quand notre particule... on va supposer qu'on a une petite particule qui fait un micron de diamètre. Hein. Je l'ai représenté par un trait noir ici. Et j'ai représenté les molécules à côté. Bon, c'est pas à l'échelle, parce qu'en fait, les molécules sont beaucoup plus petites que ça. Elles sont peut-être 10 000 fois plus petites que la particule. Mais enfin, ces molécules, bon, elles sont en grand nombre, elles font un grand nombre de chocs sur la particule. Hein. Donc les molécules, c'est les petits... Hein, je les ai représentés avec une petite flèche pour montrer que leurs directions sont complètement réparties de façon chaotique, hein, dans tous les sens. De temps en temps, elles choquent sur la particule, mais ces chocs ne se compensent pas complètement. Hein. Donc dans notre cas, si vous voulez, quand nous sommes en équilibre dans l'eau, hein, les chocs que l'on reçoit vers le haut, vers le bas, de tous les côtés, se compensent hein, avec notre poids pour nous laisser complètement immobiles. Si nous ne faisons rien, nous n'allons pas bouger. Pour la particule, c'est différent, parce que le nombre de chocs qu'elle reçoit a diminué. Et cette fois-ci, la loi des grands nombres, hein, comme on l'a vu, la loi des grands nombres, ce n'est pas une loi exacte, ce n'est qu'une loi approchée. La loi des grands nombres, elle n'est plus exactement valable. Et les fluctuations, hein, donc ce que j'avais appelé fluctuations par rapport à la loi des grands nombres, c'est-à-dire le théorème de la limite centrale, s'applique. Et cette fois-ci, notre particule, elle va se trouver agitée d'un mouvement extrêmement chaotique. Alors ce mouvement, il avait été observé... Je pense que ça fait très longtemps qu'il est observé. En fait, depuis quasiment, je pense, l'existence de microscopes assez puissants, les gens ont dû observer ce phénomène. Mais c'est un botaniste qui s'appelait Brown, qui en 1827, je crois, a pour la première fois décrit ce phénomène dans une revue. Il a publié un article dessus en disant, regardez, c'est étonnant. Lui, ce qu'il observait, c'était des grains de pollen. Il les voyait à la surface de l'eau, ils étaient agités d'un mouvement extrêmement chaotique. Alors, je vais me lancer dans un petit exercice périlleux. Je vais essayer de faire marcher un ordinateur pour essayer de vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler ce mouvement brownien. Donc, autrement dit, ce qu'on verrait dans un microscope, excusez-moi, si on regardait une petite goutte d'eau au microscope, hein, avec un petit grain de pollen. Alors, bon, normalement, si j'appuie sur la touche, vous allez voir, si tout se passe bien, un contour extrêmement compliqué se former. Ça va représenter ce qu'on verrait si la particule était formée d'encre et qu'elle laissait une trace sur l'écran. Donc voilà, je le fais, voilà. Bah, ça marche, c'est fantastique. Donc vous voyez qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se déplace et qui laisse une trace, et ça se déplace très très, très vite, et le mouvement a l'air d'être complètement chaotique. Alors les gens se sont beaucoup demandé qu'est-ce que ça pouvait être, quelle était l'origine de ce mouvement. Bon, j'ai dit Brown avait fait son observation en 1827. Bon, vers la fin du siècle, les gens ont commencé à comprendre d'où ça venait. Ils ont commencé à comprendre que l'explication que je viens de vous donner, c'est-à-dire celle avec les chocs par des molécules, mais bon, ils avaient compris le principe, mais ils ne savaient pas en faire une théorie vraiment... une théorie physique, pour faire une théorie physique, pour pouvoir calculer des choses. Alors la première personne qui a calculé des choses, en fait, c'est Albert Einstein. En 1905, il a publié un mémoire hein, sur le mouvement brownien. En 1905, il a publié trois mémoires, donc il y en a deux fameux sur l'effet photoélectrique, un autre sur la relativité. Il y en a un troisième sur le mouvement brownien, dans lequel il a compris comment... Enfin, il a donné des lois quantitatives sur ce mouvement extrêmement chaotique dont qu'on a vu sur l'écran tout à l'heure. Alors, ce qu'il a montré, c'est que... bon, je vais donner les lois, même si vous ne saisissez pas forcément la signification exacte de la loi. L'important, c'est que ça permet de caractériser complètement ce mouvement brownien. Hein, ce qu'il a montré, c'est que le déplacement entre deux instants S et T de cette particule, hein, bon, ça suit une loi gaussienne. Bon, même si vous ne voyez pas très bien ce que ça signifie suivre une loi gaussienne, donc de variance d fois t moins s. Hein, disons que la loi gaussienne, ça vous rappelle le théorème central limite, hein, le théorème de la limite centrale, ce n'est pas un hasard. Et donc ça, c'est la première loi. Et la deuxième loi, c'est que la particule n'a pas de mémoire, c'est-à-dire que en fait, elle ne se souvient pas de la façon dont elle est arrivée à l'endroit où elle est arrivée. Quand elle arrive à un endroit, elle a complètement oublié ce qu'elle a fait auparavant, et donc ce qu'elle va faire par la suite n'est absolument pas influencé par ce qu'elle a fait auparavant. Donc ça, c'est les deux lois qu'avait donné Einstein pour expliquer le mouvement brownien. Et en fait, il avait donné un moyen de calculer ce nombre d, hein, parce que vous voyez que dans donc ce phénomène physique qui a l'air compliqué, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la taille des particules, de liquide dans lequel elles se trouvent, hein, s'il est visqueux, s'il n'est pas visqueux, des choses comme ça. Et Einstein a découvert qu'en fait, il y avait un seul paramètre qui intervenait, ce paramètre D. Et dans ce paramètre, il se trouve qu'il y avait un nombre qui s'appelait le nombre d'Avogadro. Hein. Ce nombre d'Avogadro, donc, sa définition, c'est que c'est le nombre d'atomes d'hydrogène dans un gramme d'hydrogène, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas physicien, donc j'espère que ma définition est à peu près correcte. Et ce nombre d'Avogadro, les gens ne savaient pas bien le calculer, hein, enfin l'estimer, disons, plus exactement le mesurer. Et donc, grâce à la théorie d'Einstein, donc, il y a un physicien, Jean Perrin, qui a fait des expériences sur le mouvement brownien et qui a réussi à trouver, pour la première fois, une valeur raisonnable, assez proche de celle que maintenant, évidemment, on a des techniques beaucoup plus puissantes pour le mesurer, ce nombre. Mais il a obtenu la première valeur qui soit proche de la réalité pour ce nombre. Hein. Donc, il vaut 6,02 10 puissance 23 pour la petite histoire, mais ça, c'est pas mon propos ici. Alors, ça a pas mal contribué à convaincre les gens que la théorie de la structure atomique de la matière était correcte. Parce que bon, tous les physiciens à cette époque n'étaient pas convaincus. Cette époque, donc, c'était le début du siècle, hein, je vous rappelle. Alors, curieusement, 5 ans avant Einstein, quelqu'un d'autre avait découvert ces lois, donc ce que j'avais noté par petit a et petit b, les lois d'Einstein, dans un contexte totalement différent. Hein, donc cette personne s'appelait Bachelier, c'est un mathématicien français. Hein. Alors lui, il s'intéressait aux cours de la bourse. Et il voyait que les cours de la bourse fluctuaient, il essayait de comprendre comment fluctuaient ces cours. Et il s'est dit la chose suivante, eh bien, mes cours, les cours de la bourse, si je regarde comment ils fluctuent pendant un petit intervalle, je ne peux pas prévoir si le cours va monter ou descendre comme ça. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que en moyenne, il a autant de chances de monter que de descendre, hein, à moins, disons, si le marché est à peu près équilibré. Hein, et donc, il effectue un petit saut de plus 1 ou de moins 1, disons de plus epsilon de moins epsilon, si vous voulez. Epsilon, c'est un petit nombre, ou disons de plus ou moins racine de dt. Hein, et donc, le cours de mon action, hein, ou de le cours que je regarde, il va avoir une... Il va faire une sorte de courbe en dents de scie, comme ça, hein, quand je le regarde à chaque instant. Et si on le regarde de très loin, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Si je fais que mon intervalle de temps pendant lequel je le regarde est de plus en plus petit, hein, eh bien, il va faire une courbe de ce style. Hein. Et alors, ce que Bachelier avait vu, c'est que cette loi, hein, que je donne ici. Donc je dis, pendant un intervalle de temps très petit, que j'appelle dt, on effectue un saut aléatoire, donc en moyenne nul, c'est-à-dire qu'on a autant de chances de sauter au-dessus qu'en dessous, de variance. Bon, la variance, même si vous ne savez pas ce que c'est, ça représente la taille, en quelque sorte la taille de la valeur dont on saute. Ces deux lois-là, eh bien, à elles seules, elles entraînaient que le mouvement des cours de la bourse suivait un mouvement brownien. Un mouvement brownien suivant une seule coordonnée, c'est-à-dire ça se déplace exactement comme une des coordonnées. Quand je repère mon mouvement brownien dans l'espace, je peux utiliser plusieurs coordonnées. Si je regarde une seule des coordonnées, je vais voir que mon mouvement brownien, si je le regarde en fonction du temps, hein, ici l'ordonnée, l'abscisse plutôt, c'est le temps. L'ordonnée, c'est la valeur des cours de la bourse, mais ça pourrait être aussi la valeur donc, de la coordonnée du mouvement brownien. Donc ça suit un mouvement comme ça, extrêmement, vous voyez, ça gigote beaucoup, on voit que la courbe gigote beaucoup. Bon, alors, cette intuition de Bachelier, elle était remarquable. Bon, là, je vais vous montrer, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le CAC 40. Hein, donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, bon, la courbe ressemble, il y a un petit air de famille, hein, entre cette courbe que vous voyez, qui gigote beaucoup aussi. Donc, c'est celui du 22 juin à 15h22, hein, celui de la journée, la fluctuation dans la journée. Bon, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Hein, donc, l'intuition de Bachelier était assez intéressante. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette description, c'est qu'en fait, ce que disait Bachelier, c'est que la nature exacte du mouvement, hein, c'est-à-dire des petits sauts, importe peu. Ce qui importe seulement, c'est ce qu'on a appelé leur variance, c'est-à-dire un nombre qui caractérise ces sauts. Mais en fait, peu importe que ces sauts ils peuvent avoir des origines très diverses, hein, mais ce qui est important, c'est qu'à la limite, on retrouve toujours les mêmes lois, c'est-à-dire les lois d'Einstein pour le mouvement brownien. Et c'est donc, en quelque sorte, le mouvement brownien, c'est un phénomène qui est universel, c'est-à-dire qu'on va toujours retrouver ces mêmes lois, hein, dès qu'on a un phénomène en fait, qui va être dû à une multitude de causes indépendantes. Hein, dès qu'on va avoir des fluctuations, un phénomène qui fluctue dans le temps, qui est dû à une multitude de causes qui sont indépendantes et qui se renouvellent sans arrêt, hein. Alors, dans le cas du mouvement brownien d'Einstein, c'était les chocs des molécules. Dans le cas de Bachelier, c'est simplement les gens qui achètent en bourse ou qui vendent. Hein. Donc, ces gens qui influent sur le cours de la bourse. Tous ces gens qui sont beaucoup et qui ne se concertent pas. Eh bien, à la fin, le résultat, ça va être de produire ces lois d'Einstein, hein, que j'ai expliquées. Donc ça montre que le phénomène du mouvement brownien, en fait, ça va être un phénomène extrêmement universel, hein, et ce qu'on va retrouver dans des tas de phénomènes naturels. Et donc, en fait, les gens ont beaucoup utilisé le mouvement brownien pour modéliser ce genre de situation où vous avez quelque chose qui perturbe un mouvement, disons, qui est perturbé par une multitude de causes indépendantes qui agissent sans se concerter. Donc, pour étudier la perturbation, on utilise un mouvement brownien qui en fait, à cause de ce résultat que j'ai donné de Bachelier, en fait, bon, Bachelier avait énoncé ce résultat, il faut dire qu'il a été rigoureusement démontré, disons, du point de vue mathématique, il a été rigoureusement établi un peu plus tard, hein, par... Donc on peut dire que la version mathématique rigoureuse, ça s'appelle le théorème de Donsker, d'invariance, hein, qui a été établi un peu plus tard. Mais disons, l'idée essentielle est déjà se trouver dans le mémoire de Bachelier. Alors il y a une autre loi, hein, bon, qui est équivalente à celle qu'a donnée Einstein, et que Einstein aussi avait donnée, et qui nous dit que le mouvement brownien suit ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, alors c'est assez mystérieux, hein, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Vous voyez le phénomène du mouvement brownien, donc ces petites particules dans l'eau qui bougent, hein, en fait, ça a un lien avec la propagation de la chaleur. Les gens s'en sont aperçus, donc d'Einstein, qui avait établi... Alors, l'équation de la chaleur, c'est cette équation-là. Bon, si vous ne comprenez pas les équations dérivées partielles, peu importe. Hein, disons que c'est l'équation qui régit la propagation de la chaleur dans un milieu. Et alors, le résultat de cette équation, c'est la chose suivante, on peut l'interpréter de la façon suivante. Supposez que vous avez un corps à une certaine température, hein, donnée. Alors, voilà, j'ai dessiné ce corps, donc c'est cette espèce de masse, là. Et en un certain point, disons le point petit a, je ne sais pas si on arrive à lire le petit a, c'est le point qui est au milieu à peu près du corps, là. En ce point petit a, je dépose une certaine quantité de chaleur. Hein, et puis j'attends un certain temps, et après je mesure la température, l'élévation de la température du corps au point B. Bon, ça va me donner un certain résultat. Et je fais maintenant une autre chose. Hein, au lieu de regarder la température de ce corps, ben je prends le même corps, j'oublie complètement les questions de température. Et au lieu de faire ça, je mets une petite particule qui est soumise au mouvement brownien au point A. Et puis j'attends le même temps que tout à l'heure, et je regarde ben, quelle est la probabilité que cette particule soit au point B. Ben, en fait, on s'aperçoit que l'élévation de la température, c'est exactement égal, donc à une constante, à un choix d'unité de température près, c'est exactement égal à la probabilité que ma petite particule soit au point B. Donc vous voyez, ça c'est simplement rien d'autre que expliquer avec des mots ce que signifie cette équation qui est là. Donc vous voyez, le mouvement brownien, c'est lié à la propagation de la chaleur. Bon, c'est assez étonnant, hein, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait des... Enfin bon, il y a une raison mathématique qui est l'équation de la chaleur, hein, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je vais vous donner une autre propriété assez étonnante qui est liée à l'électrostatique. C'est la chose suivante. Alors, l'électrostatique, ça concerne les corps qui sont chargés. Alors là, j'ai un corps qui est conducteur, un morceau de métal, si vous voulez. Il est chargé, donc il y a des charges électriques dessus. Ces charges électriques, spontanément, elles vont se répartir sur la surface du conducteur. Hein, c'est un phénomène bien connu, et d'une certaine façon. Hein. Et alors, comment se répartissent ces charges? Eh bien, de façon assez extraordinaire, si vous prenez un mouvement brownien, encore une fois, vous le mettez très loin de la charge, du morceau de métal. Hein. Et vous laissez ce mouvement brownien suivre son chemin, hein, puis vous attendez. Au bout d'un certain temps, bon, y a une certaine chance qu'il arrive finalement à toucher le corps qui vous intéresse. Hein. Alors ce corps, il va le toucher à sa surface, quelque part. Et vous regardez la probabilité qu'il le touche en un point. Ben, la probabilité qu'il le touche en ce point, c'est exactement la quantité de charge qu'il va y avoir en ce point. Donc la façon dont les charges se répartissent, c'est exactement donné par la probabilité qu'un mouvement brownien parti de très loin touche le corps en ce point. Donc vous voyez, c'est encore un phénomène assez étonnant. Là encore, c'est la même équation mathématique qui est derrière, hein, l'équation de la chaleur. Bon, plus exactement, là, c'est plutôt l'équation de Laplace, mais enfin, peu importe. Essentiellement, c'est pratiquement la même équation. Et donc vous avez une relation de ce mouvement brownien, a priori deux choses qui n'ont rien à voir. Hein. L'électrostatique, il n'y a aucune raison que ça soit comme ça relié au mouvement brownien. Donc c'est assez étonnant. Et ça permet de comprendre des choses en fait physiques. Donc je vais essayer d'expliquer ça un petit peu. Hein. Donc à partir de la notion de capacité. Bon, ça va vous paraître peut-être encore un peu étonnant, mais c'est comme ça. Alors je prends deux sphères. Hein, de même centre, une grande et une petite, donc il y en a une qui est à l'intérieur de l'autre, et puis une petite particule qui suit un mouvement brownien qui part entre les deux. Hein. Ben, au bout d'un certain temps, elle va finir par toucher une des sphères, la petite particule, soit la grande, soit la petite. Alors je me dis, des fois elle touche la grande, des fois elle touche la petite. Quelle est la probabilité qu'elle touche la petite? Alors on peut faire ce calcul, hein, donc là, c'est donné par cette formule, là, la probabilité c'est ce nombre-là, petit p. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe quand le rayon de la grande boule est très grand. Hein, la boule est très très loin. La grande boule est très très loin et la petite boule, le petit r est petite. À ce moment-là, bon, en fait, la probabilité, c'est à peu près r sur d. Hein. Donc, vous voyez, c'est proportionnel au rayon de cette boule. Hein. Alors maintenant, imaginez que vous fassiez une autre chose. Hein. Donc là, ce que j'ai dit, vous êtes au point qui est là. Donc le point de départ, hein, de la... du mouvement brownien, hein, qui est à distance d du centre des sphères. Et puis, au lieu de laisser une petite particule brownienne vous échapper, ben on vous bande les yeux et vous tirez au hasard. On vous demande d'essayer d'atteindre la cible, c'est-à-dire la petite sphère. Voilà, quelle va être votre probabilité d'atteindre la petite sphère? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la probabilité, c'est à peu près la surface. Hein. Vous voyez bien que quand vous voyez, la probabilité, ça va être à peu près ce que la petite boule occupe dans votre champ visuel. Bon, sauf que vous avez les yeux bandés, mais disons, c'est une image. Hein. Donc si vous tirez votre projectile au hasard, hein, tout droit, hein, votre probabilité, c'est à peu près le carré de la surface, c'est-à-dire le carré du rayon, c'est-à-dire la surface. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup plus petit. Hein. Donc quand la boule devient petite, ça devient beaucoup, beaucoup plus petit. Alors pourquoi c'est plus petit? Ben, y a une explication assez simple, c'est la chose suivante. Ben, quand vous tirez votre projectile au hasard, voilà, vous faites ça. Là j'ai oublié la grande boule. Hein. Il ne me reste plus que la petite boule qui est en bas, et puis moi qui suis au centre de là. Hein. Et ben, ce que j'ai dessiné, c'est tous les points qui sont à la même distance, qui sont à la même distance que le centre de la sphère par rapport à moi, le centre de la petite sphère. Bon, alors quand j'ai tiré mon projectile au hasard, hein, c'est suivant la flèche là. Eh bien, une fois que je suis sorti de la sphère que j'ai dessinée, si je n'ai pas touché la boule, je n'ai plus aucune chance de la retoucher. Alors que mon mouvement brownien, lui, il se balade, puis vous voyez, à un moment donné, pof, il est sorti de la sphère, là. Mais lui, donc, alors, s'il est, en sortant de la sphère, il a très bien pu toucher la petite boule qui est là. Hein. Et j'avais autant de chance, en faisant ça, de toucher la petite boule qu'en tirant mon projectile au hasard. Mais seulement, si j'ai raté comme c'est le cas ici, la sphère, je suis arrivé à côté, il me reste encore une chance de rattraper la petite boule. Vous voyez, parce que le mouvement brownien, lui, il ne va pas en ligne droite, il va dans tous les sens. Donc, et ça vous explique pourquoi vous avez plus de chances d'atteindre cette petite boule qu'en tirant votre projectile au hasard, complètement au hasard, dans l'espace. Alors ça, qu'est-ce que ça permet de... cette chose simple, ça permet de comprendre quelque chose de pas du tout évident, qui est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes. Alors qu'est-ce que c'est le pouvoir des pointes? Vous avez un paratonnerre, vous savez que la foudre tombe sur les paratonnerres. Pourquoi elle tombe? C'est parce que les charges ont tendance à se concentrer dans les paratonnerres. Et on a vu tout à l'heure que les charges, elles se concentraient aux endroits où le mouvement brownien avait le plus de chances d'atterrir. Or, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que le mouvement brownien, il a, proportionnellement à la surface, il a plus de chances d'atteindre une petite boule qu'une grande boule. Je dis proportionnellement à la surface, évidemment. C'est-à-dire que si vous diminuez la surface de votre boule de 4, la probabilité que le mouvement brownien de l'atteindre, elle est divisée par 2 seulement. Donc, vous voyez que par rapport à la surface, la probabilité diminue beaucoup moins vite. Et donc, ça vous montre qu'aux endroits où, par exemple, au bout, si vous voulez, où la courbure est très grande, où ça ressemble beaucoup à une petite boule, eh bien, les charges ont tendance à être plus concentrées par rapport à la surface tout au long du paratonnerre ou bien sur la surface du sol qui est plate. Donc ça, c'est un effet. Bon, il y a un deuxième effet qui est moins évident. Donc là, j'ai essayé d'expliquer un phénomène électrostatique. Il y a un deuxième phénomène qui est dans la théorie de la chaleur. Quand vous mettez un glaçon dans un verre, c'est bien connu que la glace pilée, elle réchauffe plus vite que le glaçon. Si vous mettez votre glaçon, il va fondre beaucoup plus lentement que de la glace pilée dans votre verre. Autrement dit, si vous réduisez votre glaçon en petite quantité, en petits morceaux, alors, on peut se dire, oui, c'est normal, parce que quand je le coupe en petits morceaux, j'augmente la surface. Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que ce n'est pas la surface qui compte, la surface totale qui compte, mais l'effet est encore meilleur que ce qu'on pourrait penser, en se disant, si je coupe, par exemple, mon glaçon en deux dans les trois dimensions, je vais augmenter ma surface, je vais multiplier par surface par deux. Mais en fait, le refroidissement, lui, il n'est pas multiplié par 2, il est multiplié... Bon, j'exagère un peu en disant ça, c'est une approximation, mais il est multiplié par plus que 2, multiplié presque par 4. Ça, c'est encore un effet. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on peut voir en étudiant la théorie de la chaleur, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre aussi avec le petit calcul que j'ai évoqué tout à l'heure à propos du mouvement brownien. Donc vous voyez que le mouvement brownien est lié à des phénomènes physiques tout à fait... Qui ont a priori aucun rapport. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Bon, il y a d'autres choses encore qu'on pourrait dire en physique, mais je ne vais pas insister là-dessus. Je vais plutôt maintenant passer à des choses... à quoi ça sert le mouvement brownien, disons, dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en servent? Oui, évidemment, il n'y a pas seulement des mathématiciens qui se creusent la tête à son propos, il y a aussi des gens qui s'en servent pour faire des choses précises. Alors je vais donner des exemples. Donc ça sert pour modéliser des phénomènes, comme j'ai dit, des phénomènes qui sont perturbés par du bruit. Un exemple typique, c'est ce qui se passe quand vous voulez mettre un satellite en orbite. Quand vous voulez mettre un satellite en orbite, vous avez des tas de problèmes. Alors un de ces problèmes, c'est d'arriver à savoir exactement où est votre satellite, où est votre fusée qui vous envoie le satellite. Pour ça, on sait qu'il y a la trajectoire qu'on calcule a priori la fusée, mais évidemment la fusée elle ne va jamais suivre exactement cette trajectoire, parce qu'il va y avoir des tas de perturbations, parce que le champ de gravité de la Terre, la façon dont elle est attirée, on ne le connaît pas parfaitement, donc il y a des petites fluctuations, il y a la turbulence de l'atmosphère, il y a des radiations qui viennent du Soleil ou d'ailleurs, et qui poussent tout ça, et donc ça fait tout un tas de causes qui font que les trajectoires, on ne peut pas les prédire avec précision. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est modéliser les fluctuations de ces trajectoires autour de la trajectoire qu'on espère. Et pour modéliser ces fluctuations, on utilise un mouvement brownien. Alors, ce qu'on écrit, c'est une équation. Là, j'ai écrit ce qu'on appelle le filtre de Kalman-Bussy. Bon, je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est que l'équation. Simplement qu'on modélise le système physique que j'appelle X, donc la position, si vous voulez, du satellite par X. Et puis Z, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le satellite, il vous envoie des signaux. Ces signaux aussi, malheureusement, ils ont du bruit hein, qui leur arrive dessus. Ben, ce bruit, on le modélise aussi par un mouvement brownien. Donc on obtient une trajectoire qui est perturbée, un signal qui est perturbé par un bruit aussi. Et tout ça, de tout ça, il faut arriver à extraire une information. Alors, c'est ce que fait le filtre de Kalman-Bussy. Hein. Bon, je ne vais pas du tout expliquer évidemment ce que c'est. Hein. Mais disons que le filtre de Kalman-Bussy, c'est quelque chose qui date des années 50 et qui a vraiment été utilisé dans les programmes Apollo, Mariner, dans les années 60, hein, par la NASA. C'est vraiment quelque chose qui a servi. Alors, il y a un deuxième exemple, ce qu'on appelle la formule de Black and Scholes. C'est quelque chose qui est utilisé là, à des centaines d'exemplaires tous les jours. Hein. Il s'agit de résoudre des... Là, c'est encore dans la lignée de Bachelier. Il s'agit de problèmes de finances. Hein. Le problème, c'est d'arriver à donner un prix à une option. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une option ? Ben, j'ai donné un exemple. Donc, c'est un monsieur qui a besoin de 40 millions de dollars pour faire ses emplettes. Mais disons qu'il dirige une grosse compagnie, parce que ces sommes-là, à part M. Bill Gates, peut-être, il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent tous les jours. Donc, il y a un monsieur qui a besoin de 40 millions de dollars dans 3 mois. Donc, il a 2 euros à l'heure actuelle, donc il habite en Europe, hein, donc ce n'est pas M. Bill Gates en particulier. Et donc, il voudrait bien les échanger dans 3 mois. Bon, il ne veut pas les échanger tout de suite parce qu'il ne va pas garder 40 millions de dollars sur les bras pendant 3 mois sans rien faire. Mais, et d'un autre côté, il ne voudrait pas les échanger trop cher. M. Y a ce problème et M. X lui dit, bah, écoutez, M. Y, je vous propose, dans 3 mois, je vous vendrai 40 millions de dollars au cours de 1,10 euros, disons. C'est des chiffres un peu fantaisistes, peut-être. C'est pour prendre un exemple. Bon, d'accord, mais il faudra que vous me payiez une certaine prime pour ça, parce qu'évidemment, M. X lui rend un service, parce que si, dans 3 mois, le cours de l'euro s'est effondré, M. Y sera bien content de trouver 40 millions de dollars à 1,10 euros. D'un autre côté, si le cours de l'euro a remonté, M. Y n'est pas obligé d'acheter les 40 millions de dollars à M. X. Hein. Donc, M. X lui rend vraiment un grand service. Hein. Il l'assure en quelque sorte, c'est une assurance contre les cours de change, contre les fluctuations du taux de change. Et alors, le problème, c'est d'évaluer le prix que M. Y doit payer à M. X. Alors, pour faire ça, donc M. Black et M. Scholes, dont l'un des deux, je crois que c'est M. Scholes, a reçu le prix Nobel d'économie il y a quelques années, en grande partie pour avoir fait ce genre de calcul. Donc, ils ont modélisé, hein, suivant Bachelier, le cours d'une action, ici c'est le cours de l'euro contre le dollar, mais ça pourrait être le cours d'une action, si vous voulez acheter des actions, le cours du sucre, je ne sais quoi, hein, par une équation qui fait intervenir un mouvement brownien, encore une fois. Et donc, cette équation leur a permis d'obtenir une formule explicite, et cette formule est vraiment utilisée couramment, hein, tous les jours. Maintenant, on n'utilise quasiment plus que ça, je pense, je ne suis pas un spécialiste de la bourse et de ces problèmes, mais je crois que savoir qu'on utilise ces formules de façon extrêmement courante. Alors, bon, les modèles que j'ai décrits ici, ce qu'on appelle les modèles linéaires, c'est-à-dire des modèles, d'un point de vue mathématique, sont très simples. Bon, leur simplicité, c'est bien, c'est robuste, mais d'un autre côté, ça ne décrit pas toujours de façon adéquate la réalité. Alors depuis, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'affiner ces modèles. Ils ont fait, donc il y a énormément de recherches qui ont été faites sur ces questions, parce que vous pensez bien qu'il y a des applications, comme vous avez pu le voir, qui sont extrêmement importantes. Hein. Donc les gens ont fait beaucoup de recherches sur ces questions, et ils ont essayé de développer, d'aller plus loin que ces modèles linéaires, de développer des modèles non linéaires. Et pour ça, ils se sont servis d'un outil, de façon fondamentale, un outil qui a été inventé par un mathématicien japonais dans les années 40, hein, pour des raisons purement mathématiques. En fait, lui, son but, c'était d'étudier le mouvement brownien. Donc, a priori, il ne s'intéressait pas du tout au cours de la bourse ou je ne sais pas, enfin, au guidage de satellites. Hein, surtout dans les années 40, le guidage de satellites, c'était encore très théorique. Donc... Lui, ce n'est pas ça qui l'intéressait, donc c'était pour des raisons purement mathématiques. Il a développé toute une technique qu'on appelle le calcul différentiel stochastique et la formule d'Itô. Alors, mon but, ce n'est pas du tout de vous expliquer en détail ce que c'est, ça serait beaucoup trop compliqué. Hein. Mais pour vous donner une idée, vous savez probablement que toute la physique classique, depuis Newton, repose sur les équations différentielles. Donc la gravitation repose sur la grande découverte de Newton repose sur des équations différentielles. Les équations différentielles, ça suppose que les corps qui se meuvent dans l'espace suivent des trajectoires qui sont presque rectilignes sur un petit intervalle de temps, hein, et dont la vitesse varie peu. Or, si vous avez regardé le mouvement brownien, hein, vous pouvez remettre peut-être la figure pour voir où il en est actuellement. Donc, je l'ai laissé évoluer. Donc, vous voyez, où là, il a commencé à remplir tout l'espace. Et vous voyez, là, on le voit, on a de la chance. Vous voyez, il est en haut à droite. Il bouge, et il bouge de façon extrêmement chaotique. Et en fait, il ne bouge pas du tout comme quelque chose qui suit les lois de la physique classique. En fait, ce qu'on montre, c'est que sa trajectoire est ce qu'on appelle non différenciable. Sa trajectoire, c'est ce qu'on appelle des fois un fractal, hein, suivant la terminologie de Mandelbrot, donc il doit faire un exposé après-demain, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les fractales, il faudra revenir après-demain. Donc, c'est pas le sujet de mon exposé. Mais disons que cette trajectoire est extrêmement compliquée, et en particulier, la façon dont elle dépend du temps est horriblement compliquée. On ne peut pas lui appliquer les lois de la physique classique, les lois de Newton, les équations différentielles. Donc c'est un problème. Alors là, vous pouvez revenir au transparent. Donc ce qu'a fait le mathématicien Itô, donc il ne s'est pas désespéré en voyant que ces trajectoires n'étaient pas différenciables. Le fait que les trajectoires ne soient pas ce que j'appelle les trajectoires non différenciables, cette extrême complexité, c'est quelque chose qui avait été vu... qui avait été vu de façon intuitive par les gens. Je pense que c'est le mathématicien Wiener qui est le premier qui a fait une construction rigoureuse de ce que c'est de la version mathématique du mouvement brownien, hein, à partir des lois d'Einstein. Il a montré qu'il y avait vraiment un objet mathématique derrière, que ça tenait debout de façon mathématique. Il a montré que les trajectoires, donc, ont... Concrètement, qu'est-ce que ça signifie que ce n'est pas différenciable? Ça signifie que si vous essayez de mesurer la vitesse de la particule brownienne, vous n'allez pas y arriver. Mesurer la vitesse, il faut prendre la valeur entre deux instants et puis diviser la valeur du déplacement par la différence de temps entre les deux instants et puis regarder pour des intervalles de temps de plus en plus petits. Et bien ça, quand vous regardez des intervalles de temps de plus en plus petits, et bien ça fait des choses complètement chaotiques et ça n'a pas du tout une limite. Et, donc ça signifie que la trajectoire n'est pas différenciable. Alors Itô, donc, je disais, il ne s'est pas découragé. Il a quand même réussi à trouver qu'on pouvait faire un calcul différentiel. Alors, ce n'est pas vrai, c'est pas un calcul différentiel au sens de Leibniz et Newton, hein, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Hein. Alors, peut-être si vous connaissez des mathématiques, vous savez qu'il y a donc, un mathématicien français, Laurent Schwartz, qui a montré qu'en fait, on pouvait calculer des dérivées de fonctions qui ne sont pas différenciables, hein, avec la théorie des distributions. En fait, on pourrait appliquer la théorie des distributions au mouvement brownien et dire, ben, en fait, c'est une fonction du temps, donc j'applique cette théorie, je peux calculer la dérivée. Bon, là, ici, c'est quelque chose du plus subtil, hein, je tiens à le préciser, c'est pas la dérivée au sens des distributions qu'a calculé Itô, c'est encore, il y a un phénomène vraiment extrêmement subtil qui est derrière, un phénomène de compensation, qui fait que ce calcul peut exister et qu'on peut en trouver des règles dans ce calcul. Bon, j'ai essayé vaguement de les expliquer. Bon, je vais pas, dans ce transparent, je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails mathématiques. Disons que c'est un calcul qui suit des règles différentes de celui de Leibniz et de Newton. En fait, il est plus compliqué, hein, mais ces règles, elles sont bien connues. Elles permettent surtout de faire des calculs. C'est extrêmement important, hein, pour les gens qui veulent l'appliquer à des problèmes concrets. Alors, ce calcul Itô, c'est vraiment une grande découverte mathématique. Hein. Je pense que dans la théorie des probabilités du XXe siècle, c'est probablement une des plus grandes découvertes, une des plus profondes. Hein. Ça a vraiment eu beaucoup d'applications. Actuellement, ça a été développé dans l'état de direction, hein, et ça a eu beaucoup d'applications. Par exemple, pour essayer d'étendre les modèles dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Alors, ça m'amène naturellement à parler de ce que font maintenant les mathématiciens qui étudient le mouvement brownien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient toujours le mouvement brownien. On connaît de plus en plus de choses sur le mouvement brownien, donc ils ne chôment pas. Hein. Je vais essayer de vous donner un petit exemple de ce qu'on fait maintenant. Cet exemple, c'est un résultat qui est extrêmement récent, puisqu'il a été démontré cette année, enfin, ou la fin de l'année dernière, en tout cas. C'est un résultat qui a quelques mois. Hein. Bon, le résultat, c'est la solution d'une conjecture qui est un peu plus vieille, que je vais expliquer. Hein. Alors, ça ne tient pas très bien. Voilà, j'espère que... Bon, voilà, ce que je vous représente, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein. C'est le chemin qu'a parcouru le mouvement brownien quand on l'a regardé, qu'on regarde au microscope, hein, pendant un certain temps. Donc je l'arrête au bout d'un certain temps et j'obtiens cette espèce de fouillis, hein, une courbe extrêmement compliquée avec plein de petits trous avec, hein, qui se retournent sur elles-mêmes de façon extrêmement compliquée. Et alors, bon, le problème, c'est de... Bien que cette courbe soit extrêmement compliquée, alors là c'est un exemple, vous avez vu un autre exemple, alors chaque fois qu'on prend des exemples, évidemment comme c'est un truc aléatoire, c'est pas un truc qui se reproduit de façon identique à chaque fois, c'est quelque chose qui change, on obtient un nouvel exemple à chaque fois, mais ces exemples ont tous des points communs, si on peut dire, ils ont tous un air de famille, hein. Si vous regardez ça, ça a vraiment un air de famille avec ce que j'avais fait tout à l'heure, ce que j'avais tracé sur l'ordinateur tout à l'heure. Hein. Alors, on peut s'intéresser à essayer de décrire la complexité de cet objet là qu'on voit, hein, sous nos yeux. Donc, alors il y a beaucoup de raisons. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure une raison pour faire ça. Mais une des façons de faire, c'est d'essayer d'étudier la dimension de cet objet, ce qu'on appelle la dimension fractale de cet objet. Bon, je ne vais pas définir ce que c'est. Je vais simplement dire que c'est une mesure de la complexité de la courbe. Plus la courbe est compliquée en un sens, plus elle se retourne sur elle-même, plus elle fait de tourbillons, plus sa dimension va être élevée. Alors la courbe que vous voyez là, elle a ce qu'on appelle une dimension égale à 2. Elle a la même dimension que le plan dans lequel elle se trouve. Ça veut dire que, en fait, si vous laissez le mouvement brownien suffisamment de temps, il va quasiment remplir l'espace. Il ne va pas remplir l'espace entièrement, mais il va laisser des trous tellement petits qu'on ne pourra pas, du point de vue de la dimension fractale, faire la différence avec le plan dans lequel il se trouve. Donc, alors, j'ai parlé de Mandelbrot tout à l'heure. Alors, Mandelbrot, il y a une vingtaine d'années, il a étudié non pas la courbe elle-même, mais le bord de cette courbe. Alors, qu'est-ce que c'est le bord de la courbe? Ben, vous regardez, oui, si vous avez un petit... voilà. Donc, si vous regardez, c'est ce qui sépare l'extérieur de la courbe, de l'intérieur. Là, vous avez quelque chose qu'à l'intérieur, vous avez tout ce fouillis noir qu'à l'intérieur. Et alors le bord, vous voyez, j'essaie de le suivre là, bon c'est difficile parce que vous voyez, il n'arrête pas de tourner, hein. C'est un peu comme la côte de Bretagne, hein, pour prendre un exemple célèbre. Donc il n'arrête pas de tourner ce bord, et il est très compliqué. Hein. Il est très compliqué, mais néanmoins, c'est une courbe, par définition, c'est une courbe qui ne va pas se recouper elle-même. Donc elle va être quand même beaucoup plus petite que la courbe du brownien, hein, de la courbe brownienne qui est là. Sa dimension, elle ne va pas être 2, mais elle va être quand même, la courbe est suffisamment compliquée pour que la dimension soit plus grande que 1. Donc Mandelbrot a étudié ça, hein, il a fait des simulations, et il a sorti une conjecture, hein, il a dit, mais cette dimension, je pense que c'est 4 tiers. Hein. Donc il avait des raisons de penser ça, donc il avait aussi une bonne intuition du phénomène. Et donc c'est ce résultat qui a été démontré très récemment, hein, donc comme je répète, il y a quelques mois. Hein, donc c'est un résultat mathématique très difficile, hein, donc... qui fait appel à des techniques mathématiques assez sophistiquées. Hein. Et alors, ce qui est fascinant dans ce résultat, c'est ce nombre 4 tiers, d'où il vient. Pourquoi c'est un nombre, pourquoi c'est 4 tiers? Pourquoi ça ne serait pas 1,2, 3, 4 et 36 millions, etc. Pourquoi ce n'est pas un nombre quelconque pris entre 1 et 2? Pourquoi ce nombre-là? Vous me direz, bon, c'est une question... ça pourrait vous paraître une question oiseuse, mais pour les mathématiciens, c'est une question extrêmement importante. Voir apparaître des nombres comme ça, rationnels, hein, qui ne sont pas entiers dans des théories mathématiques comme ça, qui a priori ne contiennent pas ces nombres, c'est quelque chose de fascinant. Donc on essaye vraiment de comprendre d'où viennent ces nombres. Donc là, on a une démonstration de ce résultat, comme je dis, mais bon, c'est probablement pas du tout la fin de l'histoire. En fait, ce qu'on pense, c'est que cette théorie, derrière ce nombre 4 tiers, il y a toute une théorie dont on commence juste, disons que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une théorie qui est étudiée aussi par des physiciens, beaucoup par des physiciens, mais avec des méthodes de physiciens, c'est-à-dire que pour les mathématiciens, c'est les méthodes des physiciens ne permettent pas d'obtenir des résultats au sens mathématique, ils permettent de comprendre la situation, mais les mathématiciens ne se satisfont pas de la compréhension des physiciens, ils veulent comprendre à leur façon les choses, donc ils essayent de comprendre à leur façon, donc ils essayent de grader, de trouver cette partie immergée de l'iceberg. Et dans cette partie immergée de l'iceberg, par exemple, on espère que se trouvent beaucoup d'autres phénomènes aléatoires. Alors je vais citer un de ces phénomènes, mais bon, c'est toute une, Il y a tout un zoo, toute une zoologie là-dedans, qui s'appelle le modèle d'Ising, la mécanique statistique, etc. Donc l'exemple que je vais donner, c'est la percolation. Alors la percolation, qu'est-ce que c'est ? La percolation, ça vous rappelle les percolateurs. Hein. Donc qu'est-ce que c'est qu'un percolateur ? Donc vous avez de l'eau qui tombe dans le café, hein, et qui passe à travers. Alors comment est-ce que les gens modélisent ça ? Alors je vais présenter un modèle extrêmement grossier, mais qui d'un point de vue mathématique et même physique est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend une grille, et puis dans cette grille, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, chaque petit segment matérialise une porte. Hein. Segment horizontal ou vertical, il matérialise une porte. Hein. Et lorsque vous allez essayer de modéliser, vous essayez de modéliser votre morceau de café, enfin votre poudre de café, par cette grille dans laquelle vous allez ouvrir des portes. Hein. Vous ouvrez des portes au hasard. Comme ceci. Alors voilà, là j'ai pris donc toujours avec mon petit ordinateur. Là, chaque porte, j'ai choisi. Tiens, celle-là, je vais la garder. Je vais pas la garder en la choisissant au hasard. Une fois sur deux, j'en prends une. Une fois sur deux, j'en prends pas une. Toujours au hasard. Et vous voyez, ce que vous obtenez, c'est un labyrinthe. Ce labyrinthe, grosso modo, ça va vous représenter les chemins que peut parcourir l'eau quand elle traverse le percolateur. Bon. Ce modèle, il faut avouer qu'il n'est pas très très réaliste, hein, mais d'un point de vue mathématique, il a un sens. Hein. Alors, l'objet qui nous intéresse là-dedans, c'est le chemin, enfin, c'est les chemins qui permettent de faire passer l'eau, c'est-à-dire les chemins qui permettent de passer du haut en bas de ce labyrinthe. Hein. Donc, de passer de cet endroit-là à cet endroit-là. Et quand vous trouvez un chemin qui vous permet de passer, vous le marquez en rouge et vous êtes content. Alors ces chemins vont être extrêmement compliqués, hein. Ils vont avoir des formes extrêmement compliquées. Et pareil, là, on aimerait pouvoir comprendre comprendre ce que signifie leur dimension. Bon, alors là c'est pas leur dimension, c'est pas. Bon, il faut comprendre qu'il faut prendre une limite de ce modèle quand il y a de plus en plus de. Il y a plus en plus, la taille ici c'est 30 sur 30, hein, il y a 30 petites portes sur 30 petites portes, mais il faut faire tendre le nombre de portes vers l'infini, en prendre des millions de portes. Quand vous prenez des millions de portes, vous voyez des espèces de filaments qui se répandent quand vous essayez de comprendre comment les chemins permettent de passer de haut en bas. Hein, ça va représenter le trajet de l'eau dans le café, disons, si le modèle était un peu réaliste. Hein. Mais d'un point de vue mathématique, c'est extrêmement intéressant. Et c'est fascinant parce qu'on espère retrouver des nombres du type 4 tiers ou 5 quarts, ou etc., des nombres simples, rationnels, qui apparaîtraient dans ces théories en calculant des dimensions de ces objets ou de la vitesse à laquelle ils croissent quand on fait croire le nombre de dimensions vers l'infini. Donc ça, c'est un sujet de... Je vous ai présenté en quelques mots, donc c'est évidemment très caricatural, un sujet de recherche qui est tout à fait... actuel, hein, sur lequel il y a énormément de gens qui travaillent, à la fois du point de vue physique et du point de vue mathématique. Hein, donc ça peut vous donner une petite idée de ce qu'essayent de faire les mathématiciens qui travaillent sur le mouvement brownien. Hein, pas seulement les gens qui font des applications, mais les gens qui s'intéressent à des problèmes... bon, ça, c'est un problème qu'on se pose vraiment de façon théorique. Hein. Bon, il y a énormément d'autres choses qui sont faites sur le mouvement brownien, je ne vais pas en parler, parce que peut-être que j'ai dépassé mon temps là... de quelques minutes, donc je vais m'arrêter là et vous laisser poser quelques questions.
Merci. Des micros circulent dans la salle. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous souhaitez poser des questions afin qu'on vous les apporte ? Donc il y en a un là et un là.
Non. Vous avez dit que je crois que les probabilistes ne cherchent pas aux causes, justement. C'est les physiciens qui s'intéressent à la cause. Mais ils arrivent quand même à des tas de résultats. Mais je pense que la probabilité, de même qu'en cinématique, on ne s'occupe pas des forces et des causes du mouvement, je pense qu'en probabilité, on ne s'occupe pas de la cause, mais on trouve des résultats comme en cinématique.
Oui, le message que j'ai essayé de faire passer, c'est que... Dans le cas du mouvement brownien, en fait, ce modèle est universel, c'est-à-dire que, en fait, quelles que soient les causes, à partir du moment où ces causes sont en grand nombre et que leur ordre de grandeur est celui qui permet d'appliquer essentiellement le théorème de la limite centrale ou le théorème de Donsker, vous retrouvez toujours le mouvement brownien. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le modèle est le même, il est universel, et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ce modèle. et que finalement on n'a pas besoin de connaître les causes. On sait que systématiquement, dès qu'on aura un bruit d'une nature quelconque, il sera bien modélisé par un mouvement brownien. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est en grande partie la raison pour laquelle il occupe une position centrale dans la théorie des probabilités. C'est cette universalité, ce fait qu'on le retrouve partout.
Une question. Oui, allez-y. Vous avez évoqué la formule de Black-Scholes.
Oui.
Peut-on dire que la bourse est sans mémoire? Et que pensez-vous du point de vue de Mandelbrot, qui pense que le modèle gaussien est faux, qu'il faudrait utiliser des modèles de loi de Cauchy?
Alors c'est un problème sur lequel il faudrait mieux que vous posiez la question à Mandelbrot quand vous le verrez, évidemment, parce qu'il sera mieux placé que moi pour vous répondre. Moi, je vous ai simplement cité la formule de Black-Scholes. C'est une formule qui est très utilisée. Bon, ça veut dire quoi ? Qu'elle fait beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire sans. Ça ne veut pas dire qu'elle est exacte, évidemment. Ça, j'ai aucune opinion sur l'adéquation de la formule de Black-Scholes vraiment avec le mouvement, avec les cours de la bourse. Hein. Ça, disons qu'il y a des raisons heuristiques de penser que le mouvement brownien va marcher, mais effectivement, il y a d'autres processus que ce qu'on appelle processus stochastique que le mouvement brownien. Il y a des processus de Lévy qui aussi existent, qui sont intéressants. Bon, ce n'était pas le sujet de mon exposé aujourd'hui, j'en ai pas parlé. Mais effectivement, alors là, j'avais juste prétention à illustrer l'utilisation du mouvement brownien dans un domaine particulier. Bon, effectivement, maintenant, il y a des tas de choses qui ont été faites depuis. Effectivement, Mandelbrot a d'autres idées. Et je pense que c'est plutôt à lui de les exposer. Moi, je prétends pas, je suis pas du tout un expert en finance. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein, donc mon domaine, c'est plutôt la théorie. Hein, donc, si vous voulez, il y a d'une part le modèle mathématique qui est intéressant en lui-même. Donc on peut essayer de l'appliquer. Alors il peut se trouver effectivement que parfois ce modèle soit pas en adéquation avec la réalité, qu'il y ait d'autres modèles plus performants. Donc soit les lois de Cauchy, soit des lois stables, soit je ne sais quoi, mais c'est tout à fait possible. Hein. Personnellement, je n'ai aucune opinion, parce que de toute façon, c'est un problème sur lequel je n'ai absolument jamais travaillé, donc je ne peux pas vous répondre.
Oui, vous avez parlé de l'analogie des mouvements browniens avec les équations de la chaleur. Y a-t-il des applications avec les équations des ondes du mouvement brownien?
Les équations des ondes, non, si vous voulez, ce que j'ai dit, c'est pas une analogie, en fait. C'est une analogie avec la chaleur, mais l'équation elle-même, elle régit vraiment la propagation du mouvement brownien, si vous voulez. Elle régit vraiment la probabilité du mouvement brownien. Les équations des ondes, non, c'est des équations hyperboliques, c'est des phénomènes totalement différents, si vous voulez. Les mouvements browniens, ou toutes les choses qu'on peut fabriquer avec le mouvement brownien, essentiellement, sont liées à des équations, ce qu'on appelle elliptiques ou paraboliques, bon, pour entrer dans des termes techniques. Bon, elliptique dans le cas de stationnaire, donc c'est l'électrostatique, les équations paraboliques dans le cas de la chaleur, hein, donc avec toutes les modifications qu'on peut faire là-dessus. Hein, mais évidemment, les équations hyperboliques, à ma connaissance, les équations des ondes ne sont pas vraiment reliées au mouvement brownien. Je ne pense pas qu'on puisse faire un lien entre. Enfin, naturel entre les deux, disons.
Oui. Est-ce qu'on peut étudier les turbulences en termes de mouvement brownien?
La turbulence, ça, à vrai dire, je ne sais pas, mais à vrai dire, je ne connais rien sur la turbulence. Je pense que le monsieur, il y a eu un exposé hier ou avant-hier, je crois, sur ce sujet de Frisch. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, peut-être qu'il faudrait demander aux gens qui font de la turbulence. Là. Je ne crois pas que des choses qui utilisent vraiment le mouvement brownien qui a été fait sur la turbulence. Peut-être, en fait, je ne sais pas. À vrai dire. Peut-être, ou alors peut-être pour modéliser les mouvements de vortex. Mais non, je ne peux pas vous dire. Donc c'est un sujet sur lequel je ne suis pas compétent. Et je ne crois pas que... Bon, peut-être quelqu'un me dira, mentira, mais c'est un sujet que je ne connais pas vraiment, je ne peux pas vous dire. Oui?
Oui. Est-ce que le mouvement brownien et la marche aléatoire d'un ivrogne, par exemple, sont équivalentes?
Qu'est-ce que vous appelez équivalentes?
C'est la même chose.
Ben, si vous voulez, non, c'est pas au sens mathématique, c'est pas la même chose. Non, si vous voulez, le mouvement brownien, c'est la limite d'une marche aléatoire quand on fait tendre le pas de temps vers zéro. Hein, c'est une limite mathématique. Ce que j'ai appelé le théorème de Donsker ou le principe qu'avait trouvé Bachelier. c'est qu'en fait, le mouvement brownien, c'est l'objet limite qui représente la marche aléatoire lorsque le pas de temps tend vers zéro. Mais une marche aléatoire, ce n'est pas vraiment la même chose qu'un mouvement brownien, si vous voulez. Il y a des phénomènes qui se passent pour les marches aléatoires qui ne sont pas vrais pour le mouvement brownien et réciproquement. Si vous y pensez vraiment en termes mathématiques rigoureux, du point de vue physique, si on regarde de loin, c'est la même chose. C'est le sens mathématique de... c'est le sens physique du théorème de Donnansker, mathématique.
S'il vous plaît, dans la modélisation d'une étoile, si la propagation de la chaleur suit un mouvement brownien, comment est-ce qu'on fait pour distinguer ce mécanisme-là de celui de la convection?
La convection, c'est tout à fait différent. C'est pas du tout... Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une... On pouvait faire un parallèle mathématique entre le mouvement brownien et l'équation de la chaleur. C'est-à-dire qu'on pouvait interpréter la solution de l'équation de la chaleur, c'est-à-dire la température qu'on observe, en termes de probabilité de mouvement brownien. Hein. Mais ça, la convection, c'est tout à fait un autre phénomène. Donc c'est des phénomènes qui se passent dans l'atmosphère. Et en fait, le mouvement brownien, au niveau microscopique, il n'explique pas la propagation de la chaleur, si vous voulez. C'est deux phénomènes physiques totalement distincts, hein, mais qui se trouvent être dirigés par la même équation mathématique. C'est ça qui est important. Ce qui fait que, les mêmes équations ont les mêmes solutions mathématiques, quand il y a une unicité de la solution en tout cas, et c'est ça qui fait que ce qu'on retrouve avec le mouvement brownien, on le retrouve avec l'équation de la chaleur et vice-versa. Le phénomène de la convection, alors peut-être quelque chose que je peux dire, c'est que si vous voyez les petites particules qui dansent dans l'air, hein, si vous regardez un faisceau lumineux, bon, là il y en a plein, si vous regardez bien, des fois on voit des petites particules qui dansent dans l'air. C'est pas un mouvement brownien en fait, ça c'est des phénomènes de convection, c'est dû à l'agitation de l'air, c'est des mouvements qui sont des mouvements d'ensemble. Et on peut le distinguer de mouvement brownien pour la raison suivante, je vais peut-être expliquer ça, c'est intéressant. Si vous regardez deux petites poussières qui sont côte à côte dans ce faisceau lumineux, vous allez voir que essentiellement elles restent proches pendant un certain temps. Hein. Et en fait, si vous observez au microscope deux particules qui sont agitées par le mouvement brownien, côte à côte, eh bien ces particules vont être agitées de mouvements qui sont complètement indépendants. Elles ne vont pas se déplacer de concert. Hein. Alors dans un cas, c'est la convection, c'est-à-dire un mouvement d'ensemble de l'air qui les fait bouger, hein, ces particules, celles qu'on voit dans l'air, hein, qu'on voit dans un rayon de soleil, dans un rayon lumineux. Celles qui sont dues au mouvement brownien, donc dans l'eau, si vous voulez, les molécules qui sont du côté d'une particule et les molécules qui sont du côté de l'autre, elles sont trop loin pour pouvoir interagir. Et en fait, les mouvements des deux particules sont complètement indépendants. Ça, c'est très net, ça n'a absolument rien à voir, si vous voulez. Donc, le phénomène de convection qui fait bouger les particules dans l'air, d'ailleurs, le mouvement des particules qu'on voit dans l'air, il est beaucoup plus lent, en fait, que le mouvement brownien. Ça... Peut-être quelque chose que j'aurais pu dire, mais...
Oui, bonsoir monsieur. J'aurais aimé savoir, d'abord à propos de ce mouvement des particules, si... je ne sais pas si vous avez entendu parler du démon de Maxwell.
Hein. Oui.
Je voudrais bien que vous nous éclairiez là-dessus. Et deuxièmement, je voudrais vous demander rapidement, qu'est-ce qu'il en est de l'occupation du cosmos? Est-ce que c'est la dispersion des planètes dans le cosmos, ça suit un mouvement brownien ou pas? Merci monsieur.
Bon, sur le premier point, effectivement, donc il y a ce mouvement brownien, ça a l'air de contredire le second principe de la thermodynamique. Hein. Donc il y a des gens qui ont imaginé qu'on pouvait utiliser ce mouvement brownien à la manière des mondes Maxwell. Je ne sais pas si les gens si vous savez ce dont il s'agit. Il s'agit d'essayer de essentiellement, vous prenez une cavité remplie de gaz que vous coupez en deux, et puis au milieu, vous avez un petit trou avec une petite porte que vous pouvez bouger quand vous voulez. Il y a un petit démon qui la bouge quand il veut. Et alors, ce qu'il fait, c'est que quand il y a une particule qui passe de gauche à droite, il ouvre la porte, hein, et quand il y a une particule qui veut passer de gauche à droite, il la referme. Donc, s'il fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, tout le gaz qui était à gauche est passé à droite. Hein. Et ça contrevient au second principe de la thermodynamique, parce qu'en en fait, on a effectué un travail très très faible, qui est simplement d'ouvrir et de baisser la porte, et on se retrouve avec une quantité d'énergie énorme, puisque d'un côté on a le vide, une énergie potentielle énorme, d'un côté on a le vide, d'un autre côté on a quelque chose de plein. Alors, ça sera un peu compliqué d'expliquer, il y a des gens qui se sont dit, le mouvement brownien, il est éternel. En fait, on s'aperçoit il y a des gens qui ont regardé des inclusions de quartz qui contiennent du liquide avec des petites particules, et le mouvement brownien est toujours là depuis des millions et des millions d'années, il n'arrête pas, c'est un mouvement perpétuel, comme d'ailleurs le mouvement des molécules à l'intérieur du quartz. Alors il y a des gens qui se sont dit, mais on pourrait utiliser ce mouvement brownien en quelque sorte pour contrevenir, pour vraiment réaliser ce démon de Maxwell. Ce démon de Maxwell, il n'est pas réalisable en termes vraiment physiques. On ne sait pas réaliser des dispositifs aussi petits qui sont capables de laisser passer une particule et puis une autre. Puis en plus, il y a des tas de problèmes qui sont dus à la mécanique quantique qui se greffent là-dessus, sans parler des problèmes de mécanique classique. Hein. Maxwell, c'est de la mécanique classique, l'entropie aussi, mais... Dès qu'on essaie de détecter les particules une par une, ça devient de la mécanique quantique, ça devient horriblement compliqué. Hein, on ne sait plus faire grand-chose. Alors, donc il y a des gens qui ont essayé d'utiliser ce mouvement brownien, mais bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que effectivement, on pourrait arriver à récupérer du travail, un peu à la manière du démon de Maxwell, en faisant monter des petites particules browniennes par palier. On arrivera à les, sans travailler nous-mêmes ou quasiment pas, on arriverait peut-être à les remonter par palier jusqu'à un certain niveau, donc elles auraient une certaine énergie potentielle, et en les laissant tomber, on pourrait récupérer cette énergie. Mais le rendement d'un tel... déjà, c'est probablement irréalisable aussi d'un point de vue pratique, et le rendement d'une telle chose serait quasiment proche de zéro. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que le second principe de la thermodynamique, c'est un principe statistique. Donc, à partir du moment où vous placez un niveau microscopique, c'est-à-dire où vous considérez les particules une par une, on peut aller contre le second principe de la thermodynamique, au moins en théorie. Enfin, on pourrait, disons, dans des expériences de pensée. Je pense dans la pratique, je ne pense pas que ça ait jamais été réalisé. Enfin, je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Mais disons qu'il serait possible de... Bon, il y a des gens qui... Pour la seconde question sur le cosmos, je n'ai absolument... je ne sais pas répondre à votre question, je ne suis pas astronome. Le mouvement brownien, c'est un mouvement, hein, comme son nom l'indique. Or, les planètes sont en expansion, elles ont l'air d'être en expansion sur à une vitesse qui est à peu près régulière. Donc, le modèle du mouvement brownien, je ne pense pas qu'il s'applique au mouvement des planètes, au mouvement des astres à l'échelle galactique, si vous voulez. Par contre, est-ce qu'il y a des modèles probabilistes qui peuvent expliquer la formation des amas de galaxies et tout ça ? Ça oui, bon, il y a des gens qui étudient ça. C'est des choses que je ne connais pas, mais je ne bon. Peux pas vous en dire plus. Mais le mouvement brownien en particulier, non. Le mouvement des planètes ou des galaxies, ça n'a pas du tout l'air d'être un mouvement brownien.
Oui, allez-y.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de percolation.
Oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas définir un champ de percolation comme un champ gravitationnel qui se propage, et donc arriver à obtenir des résultats continus, des résultats discrets ? Ça, c'est pour une première question.
Oui.
Et une deuxième, c'est concernant le mouvement brownien et la formule d'Itô. Donc, vous avez parlé du phénomène discret, et vous avez dit d'un côté qu'il y avait distribution. Est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger les distributions et la formule d'Itô pour faire un nouveau calcul stochastique ?
Bon, alors, pour la première question, donc, c'était sur... oui, est-ce qu'on peut définir un champ de percolation ? Alors, ça, c'est... Oui, enfin, ce que vous dites, donc, s'il y a des gens qui essayent effectivement de faire ça, d'essayer de définir... Oui, ça a disparu. Bon. Il y a des gens qui essayent de comprendre ce que c'est que la limite. Donc, le modèle de la percolation que j'avais donné, il est discret. Hein, ça veut dire qu'on regarde un nombre fini de petites portes et on essaye de comprendre ce qui se passerait si les portes étaient infiniment petites et qu'il y avait une infinité qui remplissait l'espace. Grosso modo, c'est ça qu'essayent de faire les gens qui font de la percolation. Donc, ce que vous appelez un champ de percolation, effectivement, ça ne serait pas vraiment un champ de gravitation, mais bon, ce serait quelque chose qui y ressemblerait. Enfin, qui ressemblerait, mais disons, ça pourrait appeler ça un champ, disons, oui. Ça serait des ça permettrait de définir des ensembles, des espèces de filaments aléatoires qui rempliraient une partie de l'espace et qui décriraient bien la percolation. C'est effectivement ce que les gens essayent de faire, mais c'est un problème extrêmement difficile, du point de vue mathématique en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, et bon, jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Pour le deuxième, bon, j'ai parlé de la théorie des distributions et de la formule d'Itô. Bon, en fait, on peut dire en un sens que la formule d'Itô... vous avez d'une part la théorie des distributions qui vous permet, bon, ça va être un peu technique, d'intégrer des fonctions par rapport à la dérivée du mouvement brownien. Ça, vous pouvez le faire avec la théorie des distributions. Mais vous, le problème, c'est que si vous utilisez la théorie de distribution, vous pouvez intégrer seulement quelques fonctions, celles qui sont suffisamment régulières en un sens, qui sont suffisamment lisses. Et ce qui est assez, et ce qui est fondamental dans la formule d'Itô, c'est qu'en fait, le domaine de définition de ce qu'on appelle l'intégrale d'Itô, c'est-à-dire toutes les fonctions qu'on peut intégrer, sont en fait des fonctions, celles à laquelle d'ailleurs on s'intéresse, c'est des fonctions qui ne sont pas du tout régulières et à laquelle on ne peut pas appliquer la théorie des distributions. Donc là, il y a un phénomène qui se passe, qui fait que dans le cas d'Itô, ça marche, hein, parce que les courbes du Brownien sont essentiellement, c'est pas n'importe quoi, elles ont vraiment des propriétés fondamentales, hein, qui font que le calcul d'Itô marche. Ce n'est pas n'importe quelle courbe, que nombre différentiable. Il y a vraiment une... En plus, c'est une théorie probabiliste, donc c'est pas des... cette intégrale d'Itô, pour être un peu technique, c'est défini presque partout. Il y a toute une technicité derrière. Donc, ce que je peux dire, c'est que la théorie des distributions, si vous voulez, pour le calcul d'Itô, elle n'apporte rien. Hein. En un sens, elle est déjà contenue, mais le calcul d'Itô va plus loin. Évidemment, la théorie de distribution, ce n'est pas intéressant seulement pour le calcul d'Itô, c'est pour le mouvement Brownien, c'est intéressant pour des tas d'autres raisons. Elle a évidemment son intérêt propre, hein, en dehors du calcul d'Itô. Donc, mais pour le calcul d'Itô en particulier, non, c'est pas ça. Ça n'apporte rien par rapport à Itô.
Est-ce qu'on peut dire que dans tous les exemples ou à peu près que vous avez donnés, il y a un phénomène commun qui est que il existe une multitude de causes indépendantes qui agissent et dont aucune n'est prévalente, finalement. Est-ce qu'on peut le dire? Et d'autre part, est-ce que, à partir de quel moment existe cette multitude de causes qui fait que le mouvement brownien, ou le calcul de probabilité, peut s'appliquer? Parce que quand il y a une cause, ça ne s'applique pas, quand il y a deux causes, ça ne s'applique pas, etc. À partir de quel moment on peut parler de multitude?
Alors ça, c'est... bon. Alors d'abord, la première question, effectivement, oui, c'est le message que j'ai essayé de faire passer. Hein, donc, que quand vous avez... Donc c'est, en fait, c'est essentiellement l'idée qui est déjà contenue dans le théorème fondamental, qui est le théorème de la limite centrale. Quand vous avez une multitude de causes qui sont... Effectivement, je n'ai peut-être pas précisé, mais il faut qu'elles soient à peu près toutes du même ordre de grandeur. S'il y en a une qui est plus grande, ou s'il y en a qui sont beaucoup plus grandes que les autres, alors on va s'éloigner du mouvement brownien. On va peut-être tomber dans ce qu'on appelle... Des processus de Lévy ou des choses comme ça qui sont différentes. Mais au moins, si toutes ces causes sont à peu près du même ordre, alors donc on va avoir la loi des grands nombres, et si la loi des grands nombres n'est pas exactement vérifiée, si on s'intéresse aux déviations par rapport à la loi des grands nombres, donc au théorème de la limite centrale, et à son évolution dans le temps, alors là, effectivement, on voit apparaître le mouvement brownien. Alors, à partir de quand? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Beaucoup, ça dépend des contextes. Vous voyez, quand vous utilisez, quand vous parlez de mouvement brownien dans un liquide, là, vous avez des nombres qui sont de l'ordre de grandeur du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire des nombres absolument gigantesques, hein, à notre échelle. Mais cela dit, vous pouvez regarder. Vous voyez, moi, ce que j'ai fait avec mes humbles petites simulations, là, les petites courbes que j'ai obtenues, ça, c'est obtenu en prenant des ordres de grandeur. Là, dans cette courbe, je ne sais pas combien il peut y avoir de points, peut-être quelques milliers, quoi. Et si vous regardez un vrai mouvement brownien, si on arrivait à le tracer, ben, à l'œil nu, on ne verrait pas vraiment la différence, si vous voulez. Donc c'est quelque chose de... Tout dépend essentiellement, d'une part, du degré de précision que vous demandez pour la modélisation par le mouvement brownien, et d'autre part, du phénomène que vous regardez. Il n'y a pas de limite à partir duquel, bon, évidemment, 2, c'est pas beaucoup, je suis d'accord. À partir de quand on peut dire que c'est beaucoup? Tout dépend de la précision que vous voulez et du phénomène que vous regardez, de savoir si les hypothèses que vous avez faites sont vraiment vérifiées, donc les hypothèses que les causes agissent vraiment indépendamment, que ces causes sont de même ordre de grandeur, toutes ces choses-là. Il y a tout un tas d'hypothèses qui sont raisonnables, hein, mais qui ne sont pas forcément toujours vérifiés dans la pratique. Donc je ne peux pas vous dire à partir de 1000, vous pouvez, avant 1000, vous ne pouvez pas, après 1000, vous ne pouvez pas. Si vous voulez, cette réponse n'a pas de sens. Ça dépend. Désolé de vous faire une réponse de Normand, mais je ne peux pas dire mieux.
Bien, je vous remercie.
Merci beaucoup.